Aujourd'hui, c'est le printemps. J'ai rendez-vous à l'IMPRO, l'Institut Médico-Éducatif Balzac de Nanterre, où je retrouve Ludovic Nibilou de la compagnie XTNT, qui prépare avec les jeunes et les enfants du centre de loisirs tout à côté les Olympiades pour le festival Parade.
Moi je commente avec...
Ouais, tous les deux commentateurs, entre
guillemets. Bah, en gros, je commente qu'est-ce qui se passe pendant le match. Et genre, comment qu'est-ce qui se passe et tout. Genre si l'équipe il marque ou s'il est nul. Bah, c'est nous, on va commenter pendant le spectacle.
Vous pouvez m'expliquer ce que vous faites?
Bah, en gros...
Et qui vous êtes?
Ah bah, Nassim Noir.
Et toi?
Kérishan. On est à l'école, là, dans notre école. On joue au tennis. Comme ça, avec des équipes de petits de la centre qui sont là-bas. Et on va faire un spectacle à la fin de l'année avec les parents. Les parents vont s'asseoir et on va faire un spectacle de Olympiade.
On travaille avec les petits de maternelle là-bas. J'aurais fait le projet, ils font le projet avec nous. Genre, en gros, on a tous créé un dessin avec nos personnages. Genre, en gros, le 9 va mettre des casques s'ils ne voient pas qu'on voit leur visage. Et l'autre fois, en fait, l'éducateur qui est là-bas derrière avec Alexandre. Il a pris nos dessins. Il a mis dans un logiciel pour qu'ils soient en 3D, nos dessins. On attend les petits de maternelle ou les autres.
Ah oui, vous travaillez ensemble. Mais et vous avez quel âge?
Moi, j'ai 15 ans.
Moi aussi, 15 ans.
Être un peu plus dans du groove, tu vois, ok. Après, j'ai un peu de techno, tu vois. Là, on peut être plus speed, tu vois. Ça, c'est plus speed, celui-là. Mais ça serait pas mal à un moment de travailler sur différents types de rythmes. Ils font une même action et on voit un peu comment ils réagissent par rapport aux différents rythmes, tu vois.
Est-ce que tu veux bien qu'on aille voir comment il s'appelle, votre éducateur? Tu veux qu'on l'interview?
Ouais, si tu veux.
Allez, viens. Tu lui poses une question?
Ouais. Comment tu connais Ludovic?
C'est par l'intermédiaire de la mairie de Nanterre et le projet la Olympiade culturelle. Et du coup, ça fait partie aussi...
Il l'a rosé?
De ce qu'on va faire cet été. On fait partie aussi des parades de Nanterre et on va présenter notre projet aux parades de Nanterre fin mai. Mais c'est en lien avec les Jeux Olympiques qui se passent à Paris, chez nous, cette année.
Est-ce que ça fait longtemps que tu fais l'Olympiade culturelle?
Alors l'Olympiade culturelle, là, c'est la troisième séance qu'on fait. Donc c'est un projet qui va se passer sur entre 8 et 10 séances. Tous les mercredis, on va faire ces séances et répéter et préparer notre projet, notre spectacle.
Et est-ce que tu aimes l'Olympiade culturelle?
Bah oui, je trouve que c'est un projet intéressant. En plus, on fait ça en partenariat avec le centre de loisirs. Donc ça permet de découvrir d'autres publics qui n'ont pas forcément le même âge que vous. Comme ça, vous, ça vous responsabilise un petit peu, vous encadrez un petit peu les plus petits, on fait des choses ensemble. Et autour du sport, donc moi, à partir du moment où c'est autour du sport, moi, ça me va, c'est mon domaine.
Bonjour, je m'appelle Reda Boulares, c'est ma première année ici. J'aime beaucoup de faire cette activité-là avec Alexandre et les jeunes qu'on va faire, et aussi avec les jeunes de la maternelle. Maintenant, cette année, avec Alexandre et le groupe et notre théâtre, on va fabriquer un jeu vidéo. Pour que comme ça nous représente les personnages, on va créer un vrai jeu avec Alexandre et le monsieur qui est là-bas avec son petit chapeau. On va commencer de fabriquer les costumes et les masques avec un carton pour que comme ça nous représente les jeux dans les vrais jeux vidéo de Minecraft. Et ça va être un petit peu pareil, mais ça va être différent. On est en train de préparer les jeux qu'on va faire avec les petits qu'ils vont arriver dans pas très longtemps. On va faire les jeux impiades, on va dire. Bah, c'est les jeux impiades pour que comme ça on fait chacun qu'on va faire foot, tir à l'arc et tout ça. Bah, ça va nous aider à avoir en profiter avec les petits et les grands.
Est-ce que vous aimez qu'on vous raconte des histoires? Tu n'aimes pas qu'on te raconte des histoires?
Oui.
Pourquoi?
Parce que c'est trop ça ennuyeux qu'on me raconte des histoires et je trouve mon sommeil toute seule.
Toi, en fait, tu préfères lire toute seule les histoires?
Oui. Bah, parce que je m'endors tout seul.
Toi, tu préfères t'endormir sans histoire? Toi, tu aimes pas qu'on te raconte des histoires?
Non, parce que quand on me raconte des histoires devant moi, je risque de m'endormir et j'ai l'impression d'être dans un vrai rêve et qui me met réel.
Dans un vrai rêve qui te met réel? Tu peux nous expliquer un peu plus?
Ça veut dire comme si c'était dans la réalité, tu vois.
Ouais. Toi, tu aimes bien qu'on te raconte des histoires?
Oui.
Tu sais, tu saurais nous dire pourquoi?
Parce que moi, j'aime pas lire les histoires toute seule. J'aime bien que c'est mes parents qui les lisent. J'aime bien quand on me raconte des histoires parce que j'aime pas lire toute seule. Et quand je ferme les yeux, je peux imaginer l'histoire.
Quand je ferme les yeux, je peux imaginer l'histoire.
Moi, je peux lire tout seul parce que moi, je suis une grande fille. Moi, j'aime bien qu'on me lise des histoires parce que je peux imaginer pendant qu'on me le lise et ben, je me sens bien. Moi, j'aime pas parce que quand je me réveille, j'arrive pas.
T'arrives pas à quoi?
À me réveiller. Et des fois, la nuit, je parle toute seule. Et parce que des fois, on devient somnambule.
Ça t'arrive de rêver dans la réalité? C'est ça? Mais en fait, c'est génial parce que tu as donné une définition de ce que c'est une histoire, en fait. Est-ce que d'après vous, les histoires, c'est vrai?
Moi, je sais pas. Des fois, c'est oui, des fois, c'est non. Comme Astérix, il n'y a pas tout qui est vrai. Parfois, les maisons, elles sont, leurs maisons, elles sont triangles et il y en a, elles sont carrées.
Dans Le Petit Chaperon Rouge aussi.
Tout à l'heure, elle a dit dans Astérix, il n'y a pas tout qui est vrai. Ça veut dire qu'il y a des choses qui sont un peu vraies dans les histoires. Dans Le Petit Chaperon Rouge, il y a des choses qui sont un peu vraies?
Oui.
Ce serait quoi qui serait vrai dans Le Petit Chaperon Rouge?
La forêt, les loups et des maisons en bois.
Il y a des choses qui sont vraies dans des histoires alors?
Ici à Disneyland, quand ils se déguisent, bah, c'est pas en vrai parce que c'est des gens qui se déguisent.
C'est vrai que dans Disney, il y a souvent des personnes qui sont pas réelles, ils sont... Me dessiner.
Elles sont inventées.
Oui, inventées et dessinées.
Et tu as dit un mot qui était très important tout à l'heure. Est-ce que vous vous souvenez d'un mot très important qu'elle a dit, cette jeune demoiselle?
Imaginer.
Ouais, tu le sentais, mais tu savais plus, mais tu le savais.
Je le savais, mais...
Alors, imaginer, c'est le verbe, hein? Imaginer, c'est le verbe. Le nom pour imaginer, c'est quoi?
Imaginer dans sa tête.
Ça, c'est le verbe. Le nom, le mot, vous le faites peut-être pas encore en cours. C'est l'imagination, hein? Ok. Moi, je veux bien qu'on parle d'imagination. C'est quoi l'imagination? C'est dur, hein, les questions que je pose, hein. Mais je fais exprès, je vous embête.
Par exemple, quelqu'un qui a des pouvoirs qui sont pas réels et souvent des choses qui sont un peu horribles, mais qui sont effrayants, on va dire.
C'est-à-dire que c'est quand quelqu'un n'a pas de pouvoir réel, il les imagine?
Quand il n'a pas des pouvoirs réels, il imagine son imagination de pouvoir.
D'accord, ça voudrait dire que l'imagination, c'est un pouvoir?
Oui.
On peut trouver des synonymes du mot pouvoir? Des mots qui veulent dire la même chose? Est-ce que vous êtes d'accord pour dire que l'imagination, c'est un pouvoir?
Parce que quand tu imagines... Tu vois plein de choses et tu peux même rêver qu'il y a des trucs qui sont même pas réels et qui peuvent être réels dans ton rêve. Moi, des fois, quand je rêve, j'ai l'impression que c'est la réalité.
Moi, je dirais que l'imagination, je suis un peu d'accord avec toi, que c'est une force. C'est ce que tu veux dire.
Mais les pouvoirs, ça peut nous rendre plus forts.
L'imagination, c'est un pouvoir, c'est-à-dire une force. Ça nous rend plus forts. Quand est-ce que ça nous rend plus fort l'imagination?
Quand on fait les sports?
Moi, je suis un peu d'accord, mais c'est pas exactement ça. C'est aussi quand tu portes quelque chose qui est lourd et qui est dur.
Quand est-ce que l'imagination, ça peut nous aider, par exemple?
du yoga.
D'après toi, quel est le lien entre le yoga et l'imagination ?
Méditer.
Et on ferme les yeux, on se calme et on respire doucement.
C'est quand on se concentre, quand on fait de la méditation, quand on essaie d'être bien présent dans le moment. Et là, en effet, quand on fait cette méditation, quand on se calme, quand on fait le calme en soi, eh ben notre imaginaire, il s'ouvre et on a des images qui viennent dans nos têtes. C'est ça que tu veux dire?
Quand on fait du yoga, on peut devenir intelligent et on peut imaginer dans nos têtes.
C'était il y a longtemps, très longtemps, si longtemps que personne ne s'en souvient. C'était au temps où les hommes n'existaient pas. Voilà pourquoi. Ce jour-là, le Daba d'en haut, celui qui créa le ciel, tout ce qui vole avec des ailes et même aussi le vent, descendit de la montagne pour voir son frère, le Daba d'en bas, celui qui créa la terre et tout ce qui marche, court, coule de torrent en ruisseau jusqu'à la mer. « Frère, dit Daba d'en haut, j'ai vu en rêve une drôle de bête. » « Et nous ne l'avions pas encore faite ? » interrogea Daba d'en bas. « Ni toi, ni moi ? Alors frère, créons-la. » C'est ainsi que ce jour-là, Daba d'en haut et Daba d'en bas modelèrent une bête presque parfaite avec une poignée de terre et un peu d'eau du marigot. Dès qu'ils eurent fini, ils convoquèrent les autres bêtes qu'ils avaient déjà faites pour avoir leur avis. Oreille trop ronde, glapit Coyote. Bancale, patte du haut plus courte que patte du bas, remarqua Fourmi. On devine qui a fait quoi, susurra Serpent. Pas de queue, grimaça Singe. Ni de croc. À quoi ça sert d'avoir une gueule, s'exclama Crocodile. Pas de griffes non plus, ronchonna Lion. Et de cornes, renchérit Vache. Pas de plumes, pas de poils, pas d'écailles, et on a fait tout ce chemin pour voir ça, bougonna Tortue. Daba d'en haut et Daba d'en bas se regardèrent embarrassés. Frère, si tu m'en crois, nous n'avons plus qu'à recommencer, conclurent-ils. Et ils se remirent au travail. Le ciel, les étoiles, les nuages, voilà ce que je vais lui mettre dans la tête et cette bête-là rêvera, décida Daba d'en haut. La terre brune, les herbes sauvages, le chatouillis de l'eau, voilà ce que je vais lui mettre dans les pieds pour qu'elle marche d'un pas léger, décida Daba d'en bas. Et dans le nez, le souffle du vent pour qu'elle puisse respirer. Et dans la gorge, le gazouillis des oiseaux et elle saura chanter. Et dans le ventre, dans le ventre, Daba d'en haut interrogea Daba d'en bas. Frère, dans son ventre on met quoi? Des forêts? Trop grand. Des rochers? Trop lourd. Une tempête? Trop violent. Alors quoi? Soupira Daba d'en bas. Une goutte d'océan? Ça ferait un joli bruit là-dedans, comme le ressac de la mer, s'écria Daba d'en haut. Et Daba d'en bas accepta. Dès qu'ils eurent fini leur bête presque parfaite, ils convoquèrent toutes celles qu'ils avaient déjà faites pour avoir leur avis.
Décidément, cela ne ressemble à rien, mais à rien du tout, se murmurèrent-elles d'une oreille à l'autre pour ne pas vexer les deux Daba qui avaient beaucoup travaillé.
Il ne lui manquerait pas quelques poils sur la tête, osa Coyote.
Oui, c'est ça, quelques poils sur la tête, pouffèrent toutes les bêtes.
Et c'est ainsi que se fut décidé, Daba d'en haut et Daba d'en bas ajoutèrent trois poils sur le crâne de leur bête, presque parfaite, qui ne ressemblait pas du tout, mais pas du tout aux autres bêtes qu'ils avaient déjà faites. Et puisqu'on entendait dans son ventre le bruit de la mer qui va et qui vient sur le rivage, om, 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 Daba d'en haut et Daba d'en bas l'appelèrent comme ça, om. Mais c'était il y a longtemps, très longtemps, si longtemps que personne ne s'en souvient, sauf peut-être les bêtes que les deux Daba avaient déjà faites.
Est-ce que d'après vous, ce récit, il est vrai ?
Non.
C'est une histoire. Donc c'est une histoire qui est inventée pour nous expliquer comment le monde est né. Parce que c'est quand même assez incroyable cette question d'où on vient en fait. On ne sait pas trop d'où on vient, quel a été le premier. Et donc, dans les religions ou dans la mythologie grecque, On invente des histoires pour parler de ça.
Dabba d'en haut et Dabba d'en bas, c'est deux frères et ils ont créé les animaux et les hommes.
Pourquoi l'homme il est pas content? Pourquoi l'humain il est pas content?
Il est comme ça, il sait pas qu'il est, parce que c'est la première fois qu'il invente. Il l'invente, donc il sait pas qui il est, il sait pas comment il s'appelle, il sait pas qui il est. Ils ont pas de cerveau, ils sont pas intelligents là.
Donc s'il est pas intelligent, s'il a pas de cerveau, et s'il sait pas qui il est, est-ce qu'il est capable d'être content ou pas?
Pas du tout, parce que sinon il va croire qu'il est le seul humain qu'il vit sur la Terre, parce qu'il pense qu'il est le seul que l'être humain qu'il vit tout seul sur la Terre.
Donc pour toi, il n'est pas content parce qu'il est tout seul, en fait.
Oui.
Ouais.
Il y a plein d'animaux. Il y a aussi le crocodile, le serpent, un singe.
Il y a presque
plein d'animaux. Il n'est pas tout seul. Il peut vivre avec plein d'animaux.
Moi, je dirais que ce n'est pas possible qu'il peut vivre avec tous les animaux parce qu'il y en a certains animaux qui sont des prédateurs et qui mangent de la viande et tout ça.
Ben, vu qu'ils l'ont vu, ils savent pas s'il est bon ou pas. C'est la première fois qu'ils voient un humain comme ça. Ils croient qu'ils sont pas bons.
On est au tout début de l'humanité et du monde. On a lu ce récit d'histoire, de naissance du monde et de l'humanité, qui s'appelle une cosmogonie. Qu'est-ce qu'il a de particulier, cet homme?
Pas content. Ses yeux, ils sont vraiment pas contents.
Il est triste.
Bah là, il est pas content, il fait du boudin. C'est qu'il est pas triste, c'est qu'il fait du boudin.
Quand on est nouveau ici, on dit, quand on est né, on dit, mais qui c'est eux? Qui c'est? On sait pas qui on est, qui on voit.
Il est un peu perdu?
Oui, il est un peu perdu, par exemple.
En fait, il ressent une émotion, c'est la colère.
Et mais aussi, physiquement, il est comment?
Je vais quand même essayer de réfléchir.
Tiens, comment je te prends le livre.
Je pense que c'est ça, mais c'est pas sûr, je vais quand même le dire.
Tu le dis, parce qu'il n'y a aucune mauvaise réponse.
Je trouve que là, il est un petit peu déçu, quoi. Qu'il se sent tout seul, mais là, quand il est assis en haut, il a l'air impression qu'il a l'air dans un rêve, comme s'il a jamais existé. Il croit qu'il n'existe pas réel. Peut-être qu'il existe dans un rêve, ou parce que vu qu'il y a les deux grands bonhommes là qu'il est assis là, bah on a l'impression qu'il se trouve dans un rêve.
L'espèce là tout rouge, ben peut-être qu'ils avaient eu une idée de faire un humain un peu comme eux, qui a des bras, des jambes, parce que les autres ils marchent à quatre pattes. Et ils ont décidé de faire comme eux, qui marchent à deux pattes.
Il a presque pas d'habits.
Il est nu.
Il peut pas se jeter d'habits, bah, parce que comme s'il s'achetait des habits, bah, il pouvait vivre et bah, il serait pas torse nu.
En fait, l'humain, il avait une peau d'animal, je crois.
En fait, ils essayent de le rendre plus fort, parce que cet homme tel qu'ils l'ont créé, il est nul en fait, il est fragile, il est tout nu, bon, presque. Il va se faire manger par les autres animaux, il va pas survivre en fait. Et pourtant, nous, on est là. Donc comment il a survécu? Il recommence leur création, il rajoute.
On lui a aussi rajouté des cheveux, ses cheveux, ils poussaient pas. Il met une goutte de la mer dans son ventre.
Il rajoute quoi d'autre?
Le cerveau.
Qu'est-ce qu'il rajoute d'autre dans la tête?
Des nuages.
Ils ont fabriqué le cerveau avec des nuages. Ils l'ont mis comme nous, comme le cerveau, et ils l'ont mis dans sa tête. Une imagination pour rêver, vu que les nuages, on adore ça. Ça fait de la pluie, comme des étoiles. Et ils ont mis ça pour qu'ils puissent rêver des choses incroyables, par exemple, la nuit.
Il peut fabriquer des morceaux de bois pour faire le feu, pour qu'il puisse se réchauffer.
Dabba d'en haut, il a volé le feu à Zeus. Les humains, ils avaient besoin de défense pour encore survivre.
J'aimerais qu'on revienne sur le feu. Qu'est-ce que ça permet, le feu?
Ça permet de se réchauffer et de ne pas être toujours froid, parce qu'il faut être quand même chaud.
C'est fait pour faire plein de choses, pour fabriquer des choses avec du métal, pour chauffer de la nourriture. Le feu, c'est pour manger, pour cuire, pour se réchauffer, pour pas avoir froid.
J'aimerais que vous me disiez le mot auquel vous pensez quand je vous dis le mot feu.
Flamme, chauffer, brûler.
Énergie,
la mort.
Chaleur.
Le soleil, l'enfer.
Une lave.
peu la guerre.
Incendie, le démon. Magma, le diable. La lave.
Prométhée.
Qu'est-ce que cette histoire, elle raconte? Vous avez été très attentif.
Zeus, il punit Prométhée car il a défié Zeus.
Alors, c'est très bien parce que là tu me racontes l'histoire, mais comme t'étais pas là au début, j'aimerais que les autres te racontent le début, d'accord? Là tu racontes un peu la fin. C'est important que tu connaisses le début. Au début de l'histoire, il se passe quoi?
Il avait la guerre de Titans. Il y avait la guerre des Titans contre Zeus et c'est Zeus qui a gagné.
Et Prométhée, il a volé un truc à Zeus, je sais plus c'est quoi.
C'est le feu.
Mais ça, c'est un peu le milieu de l'histoire. Le tout début, c'est la guerre. Il y a la guerre avec les Titans, contre les Titans.
Et après,
qu'est-ce qui se passe?
En fait, après la guerre, vu que les dieux s'ennuyaient, quand du coup, ils ont décidé de créer la terre et les humains.
À qui ils demandent Zeus de créer les humains?
À Prométhée.
Alors, en fait, ils sont deux. Hein, c'est deux frères. Tu te souviens du nom du frère?
Non.
Il y a Prométhée. Alors, Prométhée, ça veut dire quoi?
Le dieu.
Non.
Prométhée, d'habitude,
tu te souviens?
Ça veut dire de Prométhée que qu'est-ce qu'il fait? Il prévoit à l'avance.
Prométhée, il prévoit à l'avance. Ça veut dire prévoyant. Zeus, il demande à Prométhée de créer le monde et les hommes. À Prométhée et à qui d'autre? Épiméthée. Donc Prométhée, ça veut dire prévoir à l'avance, et Épiméthée, ça veut dire penser après. Il y a un frère qui pense à l'avance, qui est intelligent, qui prévoit, et l'autre, il fait les choses, et puis après il se dit « Ah, peut-être que j'aurais pas dû faire comme ça ». Il pense après, en fait. Prométhée, c'est penser avant, et Épiméthée, c'est penser après. Et Épiméthée, il dit « Oh, s'il te plaît, laisse-moi créer les hommes tout seul ». Et donc, qu'est-ce qu'il fait?
Il se met au travail.
Par contre, en fait, il a créé les animaux et tout. Et après d'avoir créé les humains, il s'est dit, ils vont faire comment pour survivre quand du coup ils voulaient voler le feu. Donc, il voulait le garder pour lui. Quand après, il y allait le voler.
Alors, pourquoi il veut voler le feu, Prométhée?
Pour aider les humains, pour qu'ils arrivent à se protéger des animaux et... quand ils ont froid, ils se mettent autour du feu. Et pour qu'ils deviennent plus forts, pour qu'ils ont des pouvoirs.
Ça veut dire que les hommes, ils n'ont pas de pouvoir quand ils sont créés. D'après vous, est-ce que Épiméthée, il a bien fait son travail?
Moi, je dis non parce que... Et je ne sais plus comment il s'appelle, le frère, mais en tout cas, il n'a pas fait bien son travail, Épiméthée.
Et pourquoi alors? Qu'est-ce qu'il a oublié de faire en créant l'homme?
Il a oublié de leur mettre de l'assurance, de la bonté.
Zeus, au début de l'histoire, il s'est devenu le roi des dieux parce qu'il a créé les humains. C'est grâce à lui qu'on est là aujourd'hui.
Zeus, il a demandé à Prométhée, à Épiméthée de créer les humains. Mais les humains, ils n'ont pas été très bien créés. Il leur manquait des choses. Il leur manquait la bonté, il leur manquait l'assurance.
L'intelligence.
Et donc, pour pallier à ça, pour rétablir sa faute, qu'est-ce qu'il a fait?
Il a pris le feu.
Il a pris le feu. À qui?
À Zeus.
Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite?
Après, il a donné aux hommes...
Qu'est-ce que le feu a permis aux hommes?
Ça leur a apporté des protections face aux animaux. Ils en avaient besoin pour l'intelligence et les cheveux et la beauté.
Tu veux aussi tuer les animaux?
Que les animaux, ils ont peur et aussi comme ça, ils peuvent les tuer plus rapidement.
Qu'ils soient plus puissants?
Ça les a rendus les plus puissants des animaux. Vous savez que les hommes sont des animaux. Nous, on est des animaux, en fait. La différence avec les autres animaux, c'est qu'on a le feu, l'intelligence, les connaissances. Parce que sinon, on est assez fragile. Hein. On n'a pas beaucoup de force face à un lion. On se fait manger.
Je ne sais pas ce qu'ils ont dit ça dans l'histoire, mais est-ce que les hommes ils sont plus puissants que Zeus?
Alors, tu poses une excellente question. Parce que en étant les plus puissants des animaux, les hommes, du coup, ils rivalisent. avec les dieux. Vous comprenez ce mot rivaliser ?
Enfin, ils ont la même force, mais en égal.
C'est-à-dire que les hommes, presque, ils deviennent presque des dieux. C'est vrai que si on réfléchit, il y a des choses très belles en l'homme. La bonté, c'est quelque chose de tellement beau que ça peut nous élever. Et on est presque comme des dieux quand on est beau. C'est très important. La bonté, l'intelligence.
Mais c'est Dieu qui les a créés, les dieux.
Oui, oui, oui. Mais du coup, qu'est-ce qui s'est passé ? Comme l'homme, il a rivalisé avec les dieux, ça a créé quoi ? Ça a provoqué quoi ?
La colère de Zeus.
Parce que les dieux, ils sont très jaloux. Et la jalousie, c'est...
C'est pas très
c'est
bien.
C'est pas super. Parce que, qu'est-ce qui se passe après ?
Eh ben, Prométhée, il se fait punir par Zeus. Chaque matin, il se fait manger la côte. Et la nuit, elle se reforme par un oiseau qui le mange la côte.
Alors, c'est pas la côte, c'est le foie, mais c'est rigolo, tu mélanges oui, l'histoire, mais c'est pas grave.
Le foie, c'est comme la peau.
Le foie, c'est dedans, en fait. C'est un organe.
Moi, je trouve que c'est pas juste qu'il a pris le Prométhée, il a pris la flamme pour au roi pour protéger les humains, alors que normalement, la flamme, c'est au roi. C'est à Zeus, normalement.
Moi, ce que je trouve injuste dans l'histoire, c'est que Prométhée il se fasse punir à la place de son frère et qu'il se fasse manger son foie.
Aussi, il y avait Pandore, il a ouvert la boîte, il a puni les hommes et tous les démons ils sont sortis.
Moi, ce que j'ai trouvé juste, c'est... que Zeus il a puni comment il s'appelle déjà
Prométhée.
Oui, Prométhée. Et ça va le faire une leçon parce qu'il n'avait pas qu'à lever, il n'avait pas qu'à voler le feu. Du coup, c'est quand même bien fait.
Au début, les humains ils étaient pas bien créés. Maintenant, ils sont bien créés. On a tout maintenant grâce à Prométhée.
Il a volé le feu, Prométhée, avec une flamme. Si je vous dis le mot flamme, vous pensez à quoi, là ?
Qu'on est puissant.
Et la flamme, ça vous fait penser à quelque chose d'autre ?
Les photos qu'on a fait en bas.
Ah, peut-être, j'étais pas...
Le feu, parce que le feu, il contient des flammes.
À la cheminée.
Ouais, et la flamme ?
La flamme, ça m'a pensé aux allumettes.
Encore.
À brûler du maïs.
Ouais, la flamme, vous allez pas voir une flamme bientôt, là ?
Si. Bientôt, elle va passer à Paris, à Nanterre.
Qu'est-ce qui va passer à Paris ?
La flamme.
Pardon ?
La flamme. Je sais plus c'est quoi, c'est pour fêter l'ouverture des Jeux Olympiques.
Il y a un mot très important dans le texte que je vous ai lu, qui qualifie Ulysse. Penses-tu que la réputation de bravoure d'Ulysse soit fausse ? Crois-tu que le roi d'Ithaque soit un lâche ? Est-ce que vous savez ce que ça veut dire, la bravoure ?
En gros, il dit, si les légendes, qu'est-ce qu'on dit sur lui, genre si c'est vrai, alors que voilà. Vous voulez pas faire la guerre ?
C'est quoi la bravoure ?
Mais ça fait par partie, mais quand même à la cantine, il faut qu'ils mettent plus de nourriture.
La bravoure, ça veut dire d'être toujours présent, être courageux.
C'est que quelqu'un est courageux, par exemple, si quelqu'un est en danger, ben on le défend, on l'encourage
non.
À se battre.
Quelqu'un qui est courageux, c'est quelqu'un qui n'a peur de rien.
Oui, c'est ça.
C'est par exemple la gardienne est plus grande que l'autre, mais l'autre, il a peur, mais quand même, il tire, c'est ça.
Moi, je voulais juste dire si on pouvait continuer le livre. Moi, j'aime bien la mythologie grecque.
Je risque de m'endormir et j'ai l'impression d'être dans un vrai rêve qui me met réel.
Est-ce que les légendes, ça existe ?
Pardon, j'aimerais juste ton prénom.
Myriam.
Basiloir.
Kevin.
Osama.
Merwin.
Télan.
Lyon.
Camille.
Kirishan.
Lies.
Maïs.
Liam,
Asirim,
Erol,
Camilla,
Farah,
Liara,
Eden,
Daniel,
Mariam,
Lou,
Joseph,
Archini,
Reda,